Allez, on commence par le mot de la semaine, France. Alors, on a eu tous les chiffres 2025 pour tous les pays d'Europe cette semaine, et j'ai été, franchement, et je dis pas ça pour faire du French bashing ou pour faire du spectacle, j'ai été mais vraiment effaré par la performance de la France, dette, déficit, dépenses publiques. Alors, bien sûr, on en parle tous les jours. Alors, à force d'en parler tous les jours, on s'habitue. Sauf que quand on regarde les chiffres des autres pays, on s'aperçoit que on n'est pas obligé d'avoir 115% de dette, on n'est pas obligé d'avoir 57% de dépenses publiques, on n'est pas obligé d'avoir 5,1% de déficit. Il y a des pays qui ont beaucoup moins. Et surtout, quand on regarde la moyenne de l'Europe, le déficit, ce n'est que 2,9% pour la zone euro. C'est 87,8% la dette avec les Pays-Bas. J'ai vu avec étonnement qu'ils étaient à 44%. Je pensais que les Allemands étaient les meilleurs élèves à 63%. Et les dépenses publiques, on est à 57% et la moyenne est à 49,8%. Emmanuel, la question que je me pose, d'abord, est-ce que vous, comme moi, quand vous avez vu tous ces chiffres-là, que vous connaissez par cœur, parce qu'on les voit au quotidien, vous avez été surpris?
Alors, il faut pas tous les traiter de la même façon, avec le même degré de gravité. Et c'est vrai que le tableau que ça dépeint globalement, c'est un pays dans lequel on est les champions du déficit. Alors, il n'y a que la Belgique qui nous passe devant.
Et de peu. Hein.
On est les champions de la dépense. On est les champions des prélèvements. On est, et moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, finalement, dans tous ces chiffres, on est quasiment le seul pays dont la dette publique progresse depuis la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que depuis 2022, tous nos grands voisins enregistrent une diminution de leur dette publique. Et nous, ça n'est absolument pas le cas. Donc, en termes de trajectoire, la France est effectivement le pays pour lequel la situation des finances publiques est de loin la plus préoccupante. Et en plus, ce qui est préoccupant, c'est que au regard de ces niveaux records de dépenses, de prélèvements, de déficits et de dettes, vous mettez en face un niveau de vie qui est celui qui a le plus baissé parmi les grands pays, encore une fois, au cours des 20 dernières années. Un pays qui se traîne dans tous les classements internationaux sur l'efficacité de sa dépense publique. Je vous refais pas la litanie de PISA, de la justice, de nos performances en matière de santé, etc. Et donc, c'est là qu'on a un problème absolument considérable. Et pourquoi ça tient pour le moment? Ça tient parce que, finalement, ce système qui nous étouffe progressivement, nous évite quand même finalement des gros accidents de parcours en termes de trajectoire de vie.
Mais à quel prix?
Oui, mais au prix effectivement d'une corde qui se serre doucement autour de notre...
Emmanuel, vous avez fait beaucoup de débats avec des politiques, avec des gens compétents. Je veux dire, ce qu'on est en train de dire, c'était dans les Échos, c'est dans tous les journaux. Je comprends pas, vous êtes leader politique. Je sais pas, vous dites pas c'est la cata, il faut bouger?
Non, parce que vous vous dites qu'est-ce que...
Ça passe encore, quoi. Vous dites tant que ça passe, on continue?
C'est-à-dire, il y a un double scandale. Le premier scandale, c'est un scandale d'ambition. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces décideurs politiques, il faut être honnête, hein, ne se préoccupent quasiment que de la prochaine élection et pas du tout de ce qui va se passer à 5 à 10 ans en France. Et là où ils sont doublement coupables, le deuxième scandale, c'est pas... Le premier scandale, c'est bon, est-ce que c'est un scandale de leur reprocher leur ambition personnelle? Mais le deuxième scandale, c'est qu'ils se trompent très lourdement sur leur rapport aux Français et sur ce que les Français sont prêts à accepter. Je rappelle que tous les pays dans lesquels on a demandé des efforts importants aux citoyens, le Portugal, l'Espagne, etc., ça a coûté plusieurs milliers d'euros à chaque ménage, à chaque fois. Mais ces pays, aujourd'hui, se sont considérablement redressés. Ah oui. Et ces gens-là, sur la durée, ont vu leur niveau de vie progresser plus que nous. Absolument. Et ces politiques, là où ils sont donc, pour terminer, doublement coupables, c'est qu'ils pensent que c'est en ménageant les Français qu'ils vont être réélus, alors qu'il n'y a pas un pays où les citoyens crachent autant à la figure des hommes politiques.
Et pour aller dans votre sens, 5,1% donc pour nous de déficit, 4,9% d'excédent budgétaire primaire pour la Grèce. 4,9%. Ça vous inspire quoi, Valentine ?
Bah, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on est aussi en train de changer d'environnement de taux. Si on regardait avant le Covid, on avait une augmentation de la dette alors qu'on avait un environnement de taux qui était extrêmement bas, négatif. Si on regarde 2015-2022, si on prend le rendement à 10 ans sur la dette de l'État français, on était entre moins 0,4 et 1%. Aujourd'hui, le taux de 10 ans français, il est à 3,6, 3,7. Donc, on est dans un environnement de taux qui est aujourd'hui totalement différent. Les taux ont énormément augmenté ces dernières années, parce que la BCE, avant 2022, elle était en territoire négatif. Maintenant, elle a 2%. Et les investisseurs, maintenant... Alors, on parle de la dette française. On a l'impression qu'il n'y a quand même que la dette française qui a un mauvais élève. Mais bon, il y a quand même globalement un vrai sujet sur la dette publique si on regarde à l'échelle mondiale. Hein. Ce n'est pas juste à l'échelle française. Hein.
On regarde quand même les chiffres de... Non, je ne suis pas d'accord. Quand on regarde les chiffres de dette publique, regardez la moyenne de la zone euro, c'est 87,8. On est à 115%. Les Pays-Bas sont à 44%. Si l'Allemagne est à 63%.
L'Italie, on est à 130%.
Okay, mais
si on regarde les États-Unis, on est à 125.
L'Espagne est en dessous de nous. Emmanuel le disait, même l'Espagne est en dessous de nous.
On a quand même eu quelques pays en zone euro qui ont énormément progressé depuis la crise de la dette souveraine. Mais globalement, si on regarde la trajectoire à l'échelle mondiale de la dette publique, c'est quand même une augmentation très très significative. Et c'est quand même alerté par le FMI qui souligne quand même qu'on va revenir sur les niveaux de dette publique à l'échelle mondiale qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale.
Reparlons de la France. Des gens comme vous qui travaillent sur les taux d'intérêt, vous sanctionnez pas.
Pour l'instant, on est dans un environnement où la croissance tient. Si on bascule dans un...
Elle tient.
Non, la croissance, elle tient.
0,9%, vous appelez ça tenir. Vous, quand on paye avec 5% de déficit, on n'a que 0,9% de croissance.
On n'est pas dans une croissance faible. Si sur la zone euro, on bascule dans un environnement où il y a une croissance plus faible, oui, on va sanctionner tous les pays qui ont le profil le plus fragile. Et pour l'instant, il y a aussi des taux. 3,7%, c'est quand même un taux attractif. Et on continue d'avoir une demande très...
Ce qu'on a vu cette semaine, quand même, moi, qui m'a stupéfait, c'est quand le gouvernement vous annonce que, grosso modo, ça va coûter 6 milliards d'euros et que là-dedans, il vous met quand même 3,5 milliards
de
charges de la dette. Et en fait, vous dites, mais et comment se fait-ce? Et en fait, vous vous rendez compte que c'est les obligations indexées sur l'inflation, mais vous avez vu ce que ça représente sur une seule année. Alors après, c'est pas de neige. Ouais. Mais quand même.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui regardez, qui jugez des gens toute la journée pour décider d'investir sur leur capacité à gérer une situation financière? Si vous regardez la France comme une entreprise, vous dites c'est un drame, quoi.
Oui, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter hein, sur le constat qu'on fait. C'est un constat accablant qui a ses origines de long terme. Hein. Enfin, c'est 81 et la bascule vers une idéologie socialo-communiste hein, qu'on n'a jamais désenchanté le communisme en France. Hein, ça, c'est le problème et qui s'est infiltré dans tous les pans de la société avec une culture d'assistanat, mais aussi un espèce de principe de précaution qui s'est diffusé partout parmi les politiciens et qui fait que la prise de risque n'a pas été suffisamment rémunérée en France. Et ça se voit par exemple dans l'allocation des placements des Français, qui financent très peu, très très peu les actions.
Le Cornu est quand même en découvert hein, sur son compte courant.
Alors voilà, par exemple.
On est dirigé par un gars qui en découvert sur son compte courant, c'est quand même un truc de
dingue.
Par
exemple, les politiciens n'ont jamais, quand on regarde leurs déclarations de patrimoine, très peu jamais d'entre d'action. Eux ont des actions.
Vous voyez, donc, ce que disait Daniel
quel est l'exemple qu'il donne,
pauvre pour être honnête. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ceci dit, moi je suis fondamentalement optimiste et je dirais la France a toutes les capacités de rebondir. Il y a des pays qui ont fait les travaux. Oui, mais il faut des catalystes. Vous voyez, dans le passé.
C'est quoi le catalyste? On n'en a pas.
Ça peut être aussi, ça peut être de la chance, ça peut être un homme providentiel. Moi je vais vous raconter une anecdote qui me tient à cœur parce que. C'est un événement que peu de gens connaissent. Vous voyez, 18 juin. Le 18 juin, c'est associé à l'appel du général de Gaulle. Mais le 18 juin 1429, c'est la date de la plus grande bataille, la plus grande victoire des armées françaises. Alors, à l'époque, on était en pleine guerre de 100 ans. La France était dans une situation beaucoup plus sombre qu'actuellement. Ouais. La moitié de la France était occupée par les Anglais. Leur armée massacrait tout le monde. Crécy, Azincourt, avec des archers invincibles. Et là, vous avez... Lahire, donc c'était un homme de guerre avec Jeanne d'Arc qui cherchait, on venait de libérer Orléans, il cherchait les armées françaises, 1500 chevaliers français contre 5000 soldats anglais qui se cachaient dans les forêts, et puis tout d'un coup, il y a un cerf qui sort, qui se rue sur les Anglais et qui montre leur position. Les Français chargent, dans une forêt, les archers ne peuvent rien. en 15 minutes, 2500 morts côté anglais, alors, qui sera 3 morts côté français.
Qui sera notre cerf?
Voilà, qui sera notre cerf? Ben, le messager, c'est le messager.
En vrai,
il est déjà là. Et après, il faut un homme providentiel qui renverse la table.
On a quand même des indications. C'est intéressant de voir.
Mais pour avoir un homme providentiel, il faut que les Français le désirent. Vous avez dit qu'aujourd'hui, la mentalité sociale...
Mais je pense que les Français le désirent.
Non, je suis pas d'accord, parce que la mentalité socialo-communiste que vous donnez, elle a infusé partout dans les mentalités. Je suis pas d'accord avec vous.
Non, parce que les Français sont... Les Français aujourd'hui, malheureusement, les Français aujourd'hui sont plutôt pour une économie de l'effort et libérale. Mais le système électoral, il est tellement construit que l'idéologie.
Moi, je trouve que c'est un peu trop facile d'accuser les politiques parce que
c'est
la mentalité
électorale qui fait que.
Alors attendez juste, Pascal.
Non, les acquis sociaux sont quand même complètement là. Moi, ce qui me gêne, au-delà du chiffre, c'est l'usage de la dette. Parce qu'il y a des pays, comme Valentine mentionnait, qui sont très endettés aujourd'hui, mais qui font un bon usage de leur dette, qui trahissent leur souveraineté. On peut assez à décortiquer, mais c'est quand même plus le cas aux États-Unis qu'en France. Nous, la dette qu'on a, on la dépense mal, on fait pas de réformes structurelles, on n'investit pas dans les endroits où on devrait investir. Et comme le disait Emmanuel, la charge de la dette est devenue aujourd'hui, du fait de la hausse des taux, la première dépense du gouvernement. C'est quand même un truc de dingue. Parce qu'en fait, on est dans une spirale qui va continuer de s'aggraver. À chaque petite hausse de taux mécanique, parce qu'il y a un environnement ou autre, on voit bien que ça devient très compliqué pour nous.
C'est vrai.
Donc moi, c'est surtout ça, en fait, qui m'inquiète énormément. Et on n'a aucune marge de manœuvre. Aucune.
Emmanuel, qui sera le cerf?
Alors, deux motifs d'espoir. Le premier,
le cerf,
c'est qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'on vit peut-être dans le pays dans lequel les trajectoires de vie sont les plus sécurisées et où on est le plus malheureux.
Oui.
C'est-à-dire que, regardez, il n'y a pas un pays dans lequel les gens sont aussi pessimistes que la France, et il n'y a pas un pays dans lequel vos trajectoires de vie sont aussi balisées. Vous vous faites soigner gratuitement, les études de vos enfants, elles sont quasiment gratuites. C'est un des pays dans lequel vous avez le moins de probabilité de vous retrouver au chômage, et pourtant les gens sont malheureux. Donc moi je pense qu'il y a un carcan, à un moment qu'il va falloir sauter. Et si on prend les grands moments de l'histoire où on a été beaucoup plus mal qu'on va aujourd'hui, il faut retenir deux leçons. À chaque fois, on s'en est tiré par l'économie. À chaque fois, c'est des Sully, c'est des Colbert qu'ont redressé le pays. Donc, c'est par l'économie qu'on s'en est tiré et par des économies libérales et par des mesures libérales. Donc ça c'est quand même des bons, des bons guides. Mais comme m'avait dit Raymond Barre, parce que j'ai fait la dernière interview de Raymond Barre,
bravo,
vivant, la grande interview, c'était pour l'expansion, c'était juste avant qu'il décède, et c'était avant l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, je lui avais dit alors, c'est à l'époque on disait, oh la réforme, tout ça, etc. Avec Nicolas Sarkozy, il m'avait dit, non, vous vous trompez, il faudra que la France aille encore beaucoup plus mal avant qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
Oui, mais on a le parapluie de l'euro, on a le parapluie allemand, on a le parapluie de l'épargne des ménages, c'est pour ça que...
Mais enfin, on n'a plus le parapluie américain de la protection militaire, et on n'a plus l'énergie pas chère que nous fournissaient les Russes. Donc quand on a quand même prospéré pendant 40 ans comme l'Europe sur l'énergie pas chère fournie par les Russes et sous la protection du parapluie nucléaire américain, et que maintenant on va devoir se débrouiller comme des grands,
il va falloir...
Si avec ça, on n'est pas capable de se mettre les petits coups de pied aux fesses dont on a besoin, c'est quand même un peu à désespérer.
Quand on voit les programmes de 2027, c'est pas vraiment la bonne direction.
On en a qu'un pour le moment. Enfin...